Norman Siegel et Kenneth Thompson. Ces deux hommes sont les avocats civils potentiels de la victime présumée qui, normalement, n'interviennent absolument pas dans le stade pénal et ne devraient pas, d'ailleurs, trop faire parler d'eux dans les jours qui viennent, mais qui, évidemment, sont intéressés à observer ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, vous avez entendu un petit peu, je crois, tout ce que les avocats ont pu commencer à dire tout à l'heure en sortant. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé dans ces quatre petites minutes dans la salle d'audience, c'est que la défense a demandé au juge jusqu'au 18 juillet prochain pour pouvoir étudier les preuves qu'on va lui remettre maintenant. Le délai maximum, si vous voulez, pour l'étude des preuves et pour pouvoir déposer ce qu'on appelle les motions, il est de 45 jours. Là, donc, on a 42 jours, donc on est presque au maximum pour que la défense puisse déposer ces fameuses motions et pour discuter, donc, pied à pied, et c'est bien ça le processus qui va démarrer maintenant, discuter pied à pied chacune des preuves qui ont pu être présentées à la défense et qui sont comprises donc dans ce fameux Discovery Package dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et donc, à partir de maintenant, si vous voulez, la défense va avoir dans les mains, notamment, et c'est la pièce maîtresse probablement de ce dossier, les relevés ADN, les conditions du relevé d'ADN, où on a trouvé de l'ADN de Dominique Strauss-Kahn, dans la chambre, à quel endroit, sur le col de la chemise ou pas, de la présumée victime, etc. Donc c'est maintenant, si vous voulez, que tout ce travail va commencer. Après, c'est 4 minutes symboliques d'audience, on va dire, qui viennent de se dérouler devant nous.
Merci Fabienne. Jean-Philippe Deniaud.
Oui, question à Maître Sauffer, on est toujours dans la symbolique. Est-ce que le fait que Dominique Strauss-Kahn se soit lui-même levé et lui-même plaidé non coupable est une importance dans la procédure ?
Ça aurait pu, il aurait pu plaider non coupable à travers son avocat. Voilà. Je pense que c'était symbolique pour démontrer que c'est lui qui plaide. Il dit je ne suis pas coupable. Je suis un peu étonné que ses avocats n'ont pas au moins essayé d'empêcher les conférences de presse qui se sont déroulées en dehors du tribunal, avec l'avocat de la plaignante qui essaye de faire, c'est de polluer l'esprit des citoyens qui habitent New York, parce que c'est parmi ces citoyens que les jurés vont être choisis. On aurait pu penser qu'il viendra devant le juge pour demander à ce que le juge interdise des conférences de presse.
Mais pourquoi le ferait-il, puisque lui-même en tient une, lui-même s'exprime publiquement, Braffman.
Mais il aurait pu le demander, il ne s'est pas exprimé comme l'avocat de la plaignante, mais ils ont décidé d'avoir cette stratégie. On va comprendre après, dans quelques jours, pourquoi.
Antoine Garapon, l'arrivée en tout cas publique de Kenneth Thompson, ancien procureur noir et aujourd'hui l'un des avocats de la plaignante, de Mme Nafissatou Diallo, ça donne une dimension sociale à cette affaire à New York.
Ah, tout à fait, c'est-à-dire qu'on voit très bien se dessiner les deux stratégies de la défense et de l'accusation. Et de l'accusation, la défense veut particulariser, dire « moi je me battrai dans le tribunal » sur des preuves et en disant c'est une affaire très très particulière comme une autre, alors que la défense va dire, la stratégie de l'accusation et ce qu'on appellerait en France la partie civile, va universaliser, va dire dans le fond, cette affaire est une illustration des rapports entre les noirs et les blancs, entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, et donc elle est déjà d'ailleurs dans ce qu'a dit Thompson, on voit très bien cette stratégie là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est in fine, comme le disait Ron Sofer, des citoyens de New York qui vont constituer en jury, qui vont trancher, et donc eux, il faut qu'on leur raconte une histoire. Et à partir de maintenant, il y a finalement deux tâches. Tout d'abord, réunir des éléments de preuve, ou les contester, les invalider, mais ensuite, quelle histoire on raconte à partir de ces éléments de preuve. Et cette histoire, cette manière de construire une theory of the case, comme disent les Américains, a déjà commencé, on vient de l'entendre.
Pour conclure, je voudrais vous livrer une autre hypothèse. Elle n'était pas encore arrivée jusque-là. C'est un avocat pénaliste américain qui s'appelle Evan Fisher, qui est connu au barreau de New York, qui la livre dans le Figaro. Il est très critique sur la stratégie Braffman. Il estime que personne ne va croire à New York à une relation consentie le 14 mai. Et lui, il dit que, après tout, DSK, assisté d'un grand psychiatre, aurait pu plaider et pourrait plus tard plaider un acte compulsif, une addiction, en fait un trouble mental qui, en fait, quand on plaide un trouble psychiatrique, eh bien le traitement, il est psychiatrique, il n'est pas pénitentiaire. Et Ivan Fischer dit que ça aurait pu être une hypothèse sérieuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Ron Sofer?